Et nous voici donc en deuxième partie de l'EM. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Long Courrier, l'émission qui croise les regards et les pratiques pour peut-être réussir à voir plus loin. Les reportages sont réalisés d'un côté par Jeanne Blanchard en Finistère et de l'autre par une de nos correspondantes internationales. Elles sont trois, elles sont volontaires en mission pour le département du Finistère à l'étranger. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pratique du street art dans ces territoires très différents. On part avec Marine dans le nord de Madagascar à Diego Suarez et on va notamment se demander comment les Malgaches se sont appropriés cette forme d'art venue de l'Occident.
Nous voilà de retour à Madagascar et aujourd'hui je vous amène avec moi dans les coulisses de la 7e édition du festival Street Arty, un festival d'art urbain organisé chaque année par l'Alliance française de Diego Suarez. Pendant une semaine, j'ai pu échanger avec les organisatrices du festival et les artistes qui intervenaient. J'ai commencé avec Cassie, la directrice adjointe chargée de la culture et de la communication, pour qu'elle me présente le festival.
Donc le festival Street Artist est un festival qui a été mis en place il y a maintenant 7 ans par un jeune homme qui s'appelle Fred Suzanne, donc qui est aussi directeur adjoint de l'Alliance française de Diego. Donc c'est un festival des arts urbains, on a de la peinture, on a du graffiti, on a du slam, on a des danses urbaines comme le hip-hop, le break, on peut avoir du parcours, du cirque, etc. Et donc c'est un cadre qui est un peu particulier, en fait on fait venir des artistes de tout Madagascar et aussi de l'étranger. Souvent, ils viennent par leurs propres moyens, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de payer des billets d'avion. Et donc, ils viennent et ils échangent pendant 5 jours dans la ville de Diego. Donc, généralement, c'est du mardi au samedi. Et on va vraiment graviter dans toute la ville. Donc, le premier jour, ça va être à l'Alliance française. Le deuxième jour, à l'université d'Antiranana. Ensuite, le troisième jour, on va être chez notre partenaire, la Terrasse du Voyageur, mais on bloque une rue. Et le vendredi, c'est au Jardin Tropical. Et le samedi, encore dans un autre quartier.
À quel public est destiné le festival ?
Ce festival est adressé à absolument tout le monde, puisqu'en fait c'est vraiment pluridisciplinaire et pour tous les âges. On a un peu de tout, donc ça va intéresser beaucoup de monde, surtout la danse ici à Diego. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Est-ce que durant le festival, il y a aussi des échanges avec des classes, des écoles, des collèges, des lycées de la ville ?
Oui, toujours. On essaie en fait de faire au moins un atelier par artiste. Donc ça peut être avec des écoles, collèges, lycées, associations. Et ça nous tient à cœur aussi d'aller souvent en prison pour pouvoir apporter ça vraiment dans tous les lieux de la ville et d'occuper l'espace urbain en totalité. Une de nos missions vraiment à l'Alliance, c'est aussi de donner accès à la culture à tout le monde. Donc on va vers les gens, on va dans les quartiers. Mais ce qui est important aussi, c'est l'accès financier. Les gens n'ont pas forcément de l'argent. Donc tous nos événements, toute l'année, sont gratuits. Et principalement ce festival-là.
Je déclare ouvert le Festival des arts urbains de Diego Suarez, Street Arty, 7e édition. Chaud, chaud, chaud.
Pendant que se déroulait la battle de danse, j'ai discuté avec Jesse Avila, un jeune artiste malgache originaire d'Antananarivo, la capitale. Ensemble, on a échangé sur son parcours et sur l'appropriation de l'art urbain par les malgaches.
Alors, le street art, depuis le début, c'était un peu, comment dire ça, un peu moins connu, je dirais. Mais après, là, ça monte. Et là, ces ancêtres, personnellement, je trouve que c'était super. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Il y a les publics qui aiment déjà l'art, là. Ça commence et j'aimerais beaucoup, si ça monte encore, de donner la valeur de l'art. Surtout l'art street art et tout, voilà.
Et à Tana, j'imagine, du coup, le reste de l'année, comment tu sens que ton travail est perçu ? Est-ce que c'est compliqué de faire du street art à Madagascar ?
À Tana, par exemple, si tu peins, je vais dire, si tu vandalises les murs, tu vas finir en prison. Hein. Mais pourtant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu embellis la ville, tu sensibilises beaucoup de choses. C'est ça, au lieu de faire des phoques et tout, vaut mieux faire quelque chose de visuel, quelques visuels qui te rend heureux.
faut des autorisations pour travailler, pour choisir les murs et pour peindre. Est-ce que c'est facile d'avoir les autorisations? Est-ce que vous trouvez des propriétaires qui sont motivés et qui sont ouverts à ce genre de pratique? Ou c'est vraiment compliqué encore aujourd'hui?
Ouais, alors je vais dire 50-50. C'est difficile hein, de prendre l'autorisation, mais il y a aussi des gens que eux, ils aiment l'art et ils te donnent l'autorisation même directement. Vas-y, tu peux. Et là, ça va, 50-50.
Dans Street Arty, il n'y a pas que des graffeurs. Je suis donc allée à la rencontre de Mystique, une slameuse et comédienne, pour discuter de sa vision du street art à Madagascar.
Personnellement, les arts urbains, c'est surtout les graffitis et la peinture qu'on trouve beaucoup dans les rues à Madagascar. Je suis originaire de Tana, donc à Tana, il y a plein de murs qui sont colorés. Je suis allée dans à peu près 10 villes, il y en a aussi. Sauf que c'est assez difficile pour les artistes qui ont une expression, disons, physique ou vocale ou quelque chose qui n'est pas pérenne, en fait. Les expressions, disons, éphémères, c'est assez difficile. Et de deux, faire des mouvements dans la rue, c'est tout un processus parce qu'il y a les papiers à faire, parce que est-ce qu'il y a un contexte sociopolitique qui intervient, etc., etc. Et donc, personnellement, moi, j'ai découvert le slam à l'université, donc dans un environnement assez sécurisé quand même, assez renfermé aussi. Et justement, c'est pour ça que, à Madagascar, en fait, quand tu dis artiste, forcément, tu es un chanteur. Et donc, il faut dire aux gens, ce n'est pas seulement la chanson, je dis bien chanson, je ne parle même pas encore de musique, hein, que ce n'est pas seulement la chanson qui est une expression artistique et culturelle, qu'il y en a plein et que c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de volonté chez les artistes à partager leur art, à partager leur, à exprimer leur point de vue. Sauf que pour faire les choses, il faut toujours une structure qui porte justement pour ce côté sécurité en fait, mais aussi parce que pour un pays en voie de développement, c'est assez difficile pour les artistes d'avoir les moyens financiers, logistiques et humains qu'il faut pour réaliser des projets qui sont assez grandioses.
Cette année, le festival accueillait également des artistes réunionnais, dont Zemar, avec qui j'ai longuement échangé. Avec deux autres artistes réunionnais et l'aide des bénévoles, ils ont peint une fresque sur le site de l'université. Pour choisir leur sujet, ils sont allés voir les étudiants et au fur et à mesure des discussions, ils se sont rendus compte des conditions de vie difficiles des étudiants sur le campus. C'est donc ce qu'ils ont décidé de mettre en image dans cette fresque monumentale qui prend la forme d'une une d'un journal national malgache.
Ici, en fait, on a décidé de prendre position et de lutter contre la mauvaise qualité de vie des étudiants de l'université de Diego Suarez parce que ça nous a touchés, parce qu'on a interviewé les étudiants en leur demandant quel était leur message par rapport à qu'est-ce qu'ils avaient envie de transmettre, en fait. Et nous, on avait envie de jouer le rôle de relais par rapport à leurs paroles, par rapport à leurs messages. Et d'illustrer en fait les problèmes qu'ils rencontraient. Donc tout ce qu'on a réalisé, donc ça sera visible sur les réseaux sociaux de l'Alliance française et nos réseaux sociaux personnels aussi. Tout est exactement, enfin tout décrit l'exacte condition de vie des étudiants. Donc on voulait commémorer en fait tous ces problèmes-là pour surtout ne pas les oublier, les faire connaître aux autres personnes, que ce soit des Européens ou des nouveaux arrivants, des nouveaux étudiants qui arriveraient dans l'établissement. Et voilà, on voulait transmettre leur message qu'on a essayé de retranscrire le plus justement possible et avec le plus de délicatesse et de respect.
J'imagine que ça les a touchés, les étudiants, que vous réagissiez comme ça et que vous ayez envie de faire cette œuvre-là.
Oui, bien sûr, ça les a touchés. Je pense qu'on était tous très émus. Et ben, ça s'est ressenti à travers les rencontres qu'on a pu faire. Et on est très heureux de tous les échanges qu'on a pu avoir.
La vie rêvée des étudiants.
On est bon.
Oui.
On est bon.
Bien loin du festival Street Arty et de ses musiques, on se retrouve maintenant dans le nord du Finistère, à Morlaix. Dans ce département à prédominance rurale, quelle place cet art que l'on appelle art urbain peut-il prendre? Comment s'inscrit-il dans le territoire et est-ce que la campagne impacte les manières de créer? Je suis allée poser mes questions à Mono, qui fait partie de ces graffeurs qui créent à la campagne.
Comment est-ce que vous avez commencé à avoir une pratique artistique? Est-ce que ça a commencé avec le graphe?
Ça a été une des premières pratiques artistiques, possiblement. Enfin, voilà, ça dépend comment on compte les dessins et gribouillages étant enfant. Mais en fait, avant c'était ça. Je dessinais, je gribouillais. Peut-être que j'ai fait des débuts de bande dessinée quand j'étais en début de collège. Mais assez vite, voilà, c'était pendant le collège, en fait, qu'il y a eu des espèces d'initiations graphes et puis où ça m'a très vite pris. Et après, donc, il y en a eu d'autres qui étaient d'ailleurs, comme le graphisme ou autre, qui ont souvent fait des ponts avec le graphe initial. Donc oui, pourquoi pas, une des premières pratiques artistiques.
Où est-ce que vous avez commencé à graffer?
Eh bien, j'ai commencé à graffer ici, à Morlaix. Voilà, justement, quand j'étais au collège, tranquillement après, donc j'ai bougé un peu. Dans les grandes villes alentours et puis au fil de mes déménagements de ma vie dans quelques autres villes aussi, et après là je suis revenu et à chaque fois aussi dès le début j'ai commencé j'en faisais un peu à Morlaix parce que c'était la ville, mais j'en faisais aussi à chaque fois dans la campagne alentour parce que bon, bah, c'est là où j'évolue et puis on graffe naturellement dans les endroits où on évolue tous les jours.
C'est quoi votre rapport à la campagne?
Là, je viens de parler de moi au collège, étant ado et tout, donc il me vient tout de suite le rapport à la campagne que j'avais à l'époque, et du coup, un peu, voilà, quand t'as grandi vraiment dans un milieu très rural, et que tu es attiré à l'adolescence par le hip-hop, le graph, le rap, etc., il y a une petite dissonance quand même, enfin surtout, bon... Surtout à l'époque, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quelques rappeurs qui sont un peu plus. Pareil encore, je sais pas. Mais en tout cas à l'époque, ouais, il y avait un petit. Je pouvais pas trop m'accrocher culturellement. Enfin, j'avais un petit rejet de la campagne. Alors bien sûr, avec le temps, c'est un peu remis en question. Voilà, peut-être un petit peu quasiment de honte à l'époque d'être vraiment en milieu rural. Donc je le disais pas trop quand je graffais en ville. Et aujourd'hui, bien sûr, non, au contraire, même peut-être, je fais la part des choses, j'en suis pas fier non plus, mais bon, je suis de la campagne, point barre, et donc je fais des graphes à la campagne, point barre, quoi, voilà.
Est-ce que c'est une manière de s'approprier aussi la campagne, d'y graffer?
Ah ah, eh bien, ouais, c'est assez délicat, oui, ça, il y a un petit peu la question de marquage de territoire qui est souvent associé au graphe, qui était, je crois, un peu la base du tag à l'époque dans les gangs aux États-Unis, etc., mais qui n'est plus du tout ça, mais ça revient encore. Souvent, il y en a qui disent que le tag, c'est des gens qui pissent comme des chiens pour marquer leur territoire, etc., ce qui est... Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire non à cette question, mais certainement un peu, ça a peut-être fait partie de la manière dont je me suis réapproprié, où je n'ai plus honte d'habiter en campagne, le fait de retaguer et d'assumer. Donc dans ce cas, pourquoi pas, oui.
Comment vous choisissez les lieux où vous graffez?
C'est en passant devant, dans la vie de tous les jours, c'est pour ça qu'on tag dans la, là, où on, là où on évolue tous les jours, mais c'est... Là, c'est la science du spot, hein. C'est un savant mélange de visibilité, accessibilité, un endroit où quand on est en train de graffer, s'il y a une voiture qui vient, on peut facilement partir, ou alors on est un peu... Bon, un mélange d'un peu tout ça, quoi. Donc, il y en a... j'ai toujours derrière la tête 5 ou 6 endroits comme ça qui reste à faire et où je réfléchis justement ce que je pourrais faire dessus.
Est-ce que le choix à la campagne il est plus réfléchi, au contraire il est plus contraint, comme il y a moins de possibilités, il y a moins de murs?
Alors là, bonne question, mais je pense qu'il est plus réfléchi. En fait, si je réfléchis à tout, enfin les autres personnes un petit peu comme moi, ou juste les graphes que je peux voir comme ça en campagne, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont que dans des endroits un peu ruraux et qu'on ne retrouve pas ailleurs en ville, bah c'est souvent assez éloigné des injonctions et des styles généraux de graphes. C'est des trucs assez originaux, qui sortent vraiment de l'ordinaire, et donc un peu plus réfléchis d'une certaine manière, un peu plus... Enfin, qui sont pas réfléchis, en tout cas, en fonction de tous les autres crews pour se faire une place par rapport aux autres styles de ce qu'il y a déjà dans la ville. C'est plus une réflexion personnelle, a priori. Donc là, oui, on est en face d'une... d'un graphe ou d'un... Enfin bon, pareil, ouais, je pourrais pas expliquer ces termes-là, parce que moi-même je sais pas trop, graphe, tag, tout ça, aucun ne convient parfaitement, et tous sont un petit peu galvaudés. Mais en gros, c'est une grosse baleine de 10 mètres sur 4, faite à la perche télescopique, avec un gros trait de graphe un peu hasardeux. Et donc voilà, c'est une grosse baleine qui a un peu peur en face d'un petit poisson rouge. Et donc là oui, c'était un dispositif que j'ai inventé dans une période créative creuse, on va dire, où j'aimais plus bricoler, quoi. Et donc je m'étais dit que ça permettait, bah là on peut voir concrètement, il y a dans ce lieu, comme dans beaucoup d'autres lieux où il y a du graphe, toute une bande à partir de 2 mètres, 2 mètres 50, et totalement recouverte à chaque fois de graphe. Mais il y a une partie à partir de 2,50 m jusqu'à très très haut qui est vide. Donc là, voilà, cette perche permet justement d'accéder à ces lieux-là, et donc justement à être plus tranquille, quoi. Déjà pas repasser d'autres, et puis aussi aller dans des endroits visibles différemment, quoi. Des endroits plus loin aussi, en faisant des choses plus grosses.
Est-ce que c'est important pour vous que vos créations elles soient visibles comme ça de très loin, et est-ce que ça a un lien particulier avec le fait que c'est ici dans un milieu quand même un peu rural?
C'est ça à la base, justement l'idée de faire cette perche télescopique là, c'était en ayant derrière la tête quelques endroits, parce qu'en milieu rural c'est surtout le long des voies de communication. En ville, voilà, on voit les graphes quand on est à pied, c'est plus dense. Et en milieu rural, c'est le long des autoroutes, des chemins de fer, etc. Et donc là, ça va plus vite. Ça va plus vite, et donc quand on fait un petit tag de 2 mètres de long, on le voit pas. Et soit il est loin, on le voit pas, soit il est près et ça va trop vite, on le voit pas. Et quand on fait quelque chose de plus gros, en milieu rural, derrière la tête, enfin j'avais rien de précis, mais je voyais certains endroits, des grands hangars qui sont à 100 mètres plus loin, des choses comme ça, où je visualise plus quelque chose de très simple, de très épuré, qui fait 10 mètres de long sur 4 de haut. Et voilà, sans trop de frioritures, d'ombre, de surcontour, de choses comme ça. Et voilà, et donc habituellement à Paris ou dans les autres villes, naturellement, ce genre d'endroits sont occupés par des graffeurs qui viennent faire des choses à la perche, des grands graphes, des blocs à la perche. On voit des noms qui font 10 mètres de long, très très grands, où là on a des trucs très simples, très carrés. Mais voilà, dans le coin de Morlaix, une petite ville de 12 000, 20 000 habitants en fonction de comment on compte, bah, y a pas ça, vu que c'est pas la scène graffiti est beaucoup plus restreinte. Donc ces endroits-là sont vierges. Et c'est toujours sympa de faire un petit tag dans un endroit immaculé.
C'est quoi l'intérêt pour vous de faire sortir une forme d'art qui a été créée vraiment dans la ville, en dehors des villes ?
Eh bien, l'intérêt, de base, si cette forme d'art urbaine est sortie hors de ville, bah, c'est déjà tout simplement parce que bah, je me suis approprié cette forme d'art et que moi j'habite en campagne. Enfin, déjà, mais après, si on doit trouver un intérêt, bah, c'est justement que le fait de changer ce lieu. Enfin, comme dans toute forme d'expression artistique, en fait, quand on change une part vraiment importante de... En fait, un des aspects fondamentaux de ce mode d'expression, bah, on le change. Bon, bah, ça va changer concrètement, visuellement, cette forme d'expression. Et donc, ça va apporter de nouvelles... Ça apporte, de fait, de nouvelles manières de faire les choses, visuellement sera différent, et donc c'est intéressant en fait, c'est juste d'explorer des nouvelles manières de s'exprimer, c'est toujours intéressant. Et en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que je vois aussi dans les autres personnes. Par exemple là, pas loin de Morlaix, il y a quelqu'un sur la côte qui fait des espèces de triangles avec un œil dedans et des petites ailes qui ressemblent à un espèce de symbole Illuminati un peu pop. Et ça, oui, bon, on le trouve vraiment que dans des transfos EDF perdus dans la campagne, et j'en ai pas trop vu dans les villes alentours. Et justement, bah, c'est le fait que celui-là il soit vraiment perdu en plein milieu d'une campagne. Je trouve ça d'autant plus intéressant, quoi. Il est encore plus perdu, encore plus mystérieux. Et donc ça apporte vraiment quelque chose différent que si bah, ce même symbole il était le long d'un métro parisien perdu, noyé dans la masse, il n'aurait pas du tout le même impact. Et je pense aussi les espèces de gros dessins que je fais également. Et donc voilà, ça c'est assez intéressant.